Alors, on va attaquer ce sujet du repos. Je vous assure, pour moi, je suis obligé de vous apporter ce sujet. Je vais commencer par deux témoignages. J'en ai donné déjà un. Mais il y en a un autre de pire qui va vous faire réfléchir. Je ne savais pas si je devais le dire tellement c'est misérable. Mais je vais vous le dire quand même. Il y a un mois et demi, j'ai téléphoné à une sœur qui a perdu, qui son mari est parti, ses enfants sont partis, elle a perdu son boulot. Une sœur qui a une vraie piété. Et cette chrétienne que j'appelais me disait, tu sais, écoutez bien, je fuis les chrétiens. Mot à mot, hein, je fuis les chrétiens parce qu'ils me communiquent des angoisses. Et je sais que c'est vrai. C'est-à-dire que cette sœur est en train de vivre un véritable drame. Elle le vit dans la foi en plus. Mais les chrétiens sont complètement dépassés et incapables de l'aider parce que les chrétiens pataugent dans l'épreuve. Alors que l'épreuve, on va le voir, elle fait partie de notre vie. Dieu est obligé de nous éprouver, de la même manière qu'il est, entre guillemets, obligé de nous bénir, parce que nous sommes ses enfants. Vous comprenez? Et une sœur me dit, écoutez-vous bien, je sais que vous êtes assis, et vous savez que c'est vrai. J'ai hésité à le dire, j'ai beaucoup hésité. On a invité une sœur à manger, qui est psychologue, qui n'est pas de ce département, qui travaille en psychiatrie, à l'accueil. Écoutez ce que cette femme nous a dit. Je crois que Dieu a permis qu'elle me le dise. Parce qu'il n'y avait pas de raison qu'elle me le dise. Je travaille en psychiatrie. Et je ne me rappelle plus si elle a dit 8 ans ou 10 ans. En 8 ou 10 ans, les 1/3 de l'église sont passés en psychiatrie. Vous entendez? Alors, moi je ne juge pas, justement. Dieu a permis que ces informations me remontent, mais moi je veux faire la volonté de Dieu dans ce domaine, à savoir amener, par la grâce de Dieu, le repos dans le cœur des chrétiens. Ces prédications n'auront qu'un but, on va le faire le dimanche matin pour commencer, et le mardi soir. Dimanche matin, mardi soir, je vais m'appliquer, ça me prendra du temps, mais je le fais avec beaucoup de ferveur, à aider les chrétiens à comprendre une chose, c'est qu'ils doivent puiser dans la parole de Dieu tout ce dont ils ont besoin. On l'a entendu ce matin, la prophétie que Dieu met devant nous des mets succulents et gras. On l'a entendu. Mais est-ce qu'on a compris vraiment ce que ça voulait dire? Est-ce qu'on a compris vraiment tout ce que Dieu veut nous donner? Alors on va lire quelques lectures. C'est une introduction, c'est un sujet extrêmement important, mais vous comprendrez qu'en tant que chrétien ou en tant que pasteur, ça fait mal au cœur d'entendre qu'un tiers de l'église, vous entendez, et une grande église, pas une église de 20 personnes, parce que ça ferait 7 personnes, mais c'est une grande église. Un tiers des chrétiens ont été accueillis en psychiatrie, aux urgences. Ça vous prouve que les chrétiens ne sont pas rentrés dans le repos. Et il y en a certainement parmi nous, et on ne va pas juger, accabler, on va travailler la parole de Dieu de sorte que tous, parce que c'est la volonté de Dieu, nous entrions dans le repos de la foi. Alors, regardez par exemple dans le Deutéronome, chapitre 6, au verset 6. Alors ce matin, je le répète, c'est une introduction. Il faut une introduction pour que vous compreniez un petit peu où on va aller. Car c'est un sujet immense. Dieu ne cesse dans sa parole de nous exhorter à rentrer dans le repos. Par exemple, dans le Deutéronome, chapitre 6, il faudrait lire le chapitre en entier, je vous exhorte à prendre des notes et à méditer ces textes, à les méditer vraiment. Deutéronome, chapitre 6, verset 6. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Le problème, il est là, dans ton cœur. Alors regardez ce que Dieu va ajouter. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. On voyait bien qu'il fallait pouvoir visualiser ces paroles de l'Écriture qui allaient nous faire du bien. Il y a des chrétiens chez eux qui ont des versets bibliques. C'est excellent. Bon, j'ai souvent vu des chrétiens qui ont des versets extraordinaires, mais ils ne les voient plus, tellement ils les ont mis depuis longtemps, ils ne les voient plus. Et pourtant, ce sont des paroles qui produiraient le repos. C'est pour ça qu'il faut que ça soit dans le cœur. Parce que ça, vous pouvez avoir le plus beau cadre avec le plus beau verset. Si vos yeux ne le voient pas, ça ne sert à rien. Mais si c'est dans votre cœur, mais quand même, moi je crois que c'est une bonne chose d'avoir sur notre chevet, dans notre salle de bain, partout, des paroles de l'Écriture qui font qu'on commence la journée, ou dès qu'on rentre à la maison, on se souvienne que l'Éternel est notre berger et que nous ne manquerons de rien. C'est certainement bien de le comprendre. Dans le psaume 9, c'est un texte qui m'a aidé beaucoup. Ça, c'était pendant mes vacances, j'en ai déjà parlé. Il y a un an de ça, c'est pas cet été, donc ça fait un an et demi. Ça fait un an et demi. Dans le psaume 9, au verset 11, ce verset m'a interpellé et m'a permis de comprendre un petit peu toutes ces prédications qu'on va aborder. Psaume 9, verset 11, regardez bien, il faut bien comprendre le verset. Il faut bien le comprendre. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Ceux qui te connaissent se confie en toi. C'est pas possible. Si vous connaissez Dieu, vous pouvez pas faire autrement que de vous confier en lui. Et beaucoup de chrétiens croient en Dieu, mais ne lui font pas confiance. Pourquoi ? Parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils connaissent les Saintes Écritures, ça on va voir, mais ils ne connaissent pas Dieu. Est-ce que vous me suivez ? On peut connaître par cœur les Écritures, on va le voir, c'était très clair, Jésus l'a précisé, et ne pas le connaître. Et voilà un des drames, pourquoi tant de chrétiens, à la place de procurer la paix, procurent l'angoisse. Quand on y réfléchit, c'est un truc de fou, qu'un chrétien procure des angoisses. Mais je ne pense pas que je vous apprends quelque chose. Ouais. Troisième texte, dans l'Épître aux Hébreux, l'apôtre utilise l'histoire que des Hébreux, justement, dans le désert, pour expliquer qu'ils sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux la parole. Beaucoup de chrétiens sont sauvés. Ce n'est pas parce qu'ils sont morts dans le désert qu'ils ont été en enfer. C'était le peuple de Dieu, délivré, etc. Mais ils ne sont pas rentrés dans les promesses de Dieu parce que, eh bien, on va le lire. Hébreux chapitre 3, verset 18. À qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? Aussi voyons-nous qu'il ne put y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Regardez bien le verset 2. Car cette bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Vous pouvez méditer ce verset pour votre culte personnel. Cette parole ne leur servit de rien. Il y a des gens qui prennent le verset d'Ésaïe, des fois la parole de Dieu ne retourne pas sans avoir accompli son effet. Ça n'a rien à voir. Il y a des personnes pour qui la parole de Dieu, ils l'entendent, ça ne sert à rien. Parce qu'ils ne l'écoutent pas avec un cœur plein de confiance. Après, il y a un commandement au verset 11, qui est très bon pour l'introduction de ces longues prédications. « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » C'est un commandement, les commandements, je ne sais pas si vous y êtes attentifs, mais c'est un commandement. « Empressons-nous d'entrer dans ce repos. » Nous devons apprendre, premièrement, un des problèmes pour lesquels les chrétiens n'entrent pas dans le repos, c'est qu'ils ne savent pas s'arrêter. Ils ne savent pas s'arrêter. C'est quelque chose, je ne sais pas vous, si vous savez vous arrêter, ou si vous courez tout le temps. Parce qu'on peut courir tout en étant assis dans son fauteuil. C'est pas physique. Hein. C'est pas physique. On peut courir tout en étant assis dans son fauteuil. On peut être plus agité dans son lit et dans son fauteuil qu'en pleine activité. Je sais que je ne vous apprends rien. Donc nous devons apprendre à nous arrêter. C'est quelque chose d'important. C'est le premier conseil qui est biblique. C'est écrit plusieurs fois. Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Donc les conseils que je vais vous donner sont tous bibliques. Vous inquiétez pas, il n'y a pas des conseils humains qui serviraient strictement à rien. C'est un des problèmes. Les chrétiens ne savent pas s'arrêter. C'est ce que Dieu a voulu en partie au travers de cet AVC. Dieu a voulu que je m'arrête. Parce que je peux vous dire que quand il veut vous arrêter, le Seigneur, il a ses moyens. Ah là, il vous arrête, ça c'est sûr, là j'ai compris. Bon. Et ça c'est un problème, savoir s'arrêter. Comme Marie qui s'était assise au pied du Seigneur et qui pourtant, humainement, elle en faisait beaucoup moins que sa sœur qui était en train de répondre à un besoin puisque Jésus était là avec les 12, ils avaient faim, etc. Donc voilà, il y a des besoins, c'est urgent, il y a 12, 13, 13 hommes qui viennent manger. Voilà. Et c'est vrai que c'est un dilemme, ce qu'il y a à faire et ce que Dieu veut me dire. Ça, c'est une autre chose. Bon, mais premièrement, vous rappelez-vous la seule fois dans la Bible où Dieu parle que c'est bien de lire un livre. C'est dans l'Apocalypse. Regardez avec moi. Ces textes, je les ai pris, j'allais dire presque au hasard. Je dis au hasard dans le sens où il y en a tellement qui nous permettent de mettre des mots sur nos souffrances. Pourquoi tant de chrétiens ne sont pas heureux? Je parle de la joie du Seigneur, je ne parle pas d'une joie factice. Je parle d'une joie profonde. Apocalypse, verset, chapitre 1, verset 3. C'est le seul livre parmi les 66 où Jésus dit que c'est bien de lire, qu'on peut être heureux en lisant. Il y a des gens, quand ils lisent Apocalypse, ils ont peur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des gens, quand ils lisent Apocalypse, ils disent « Moi, je comprends rien ce bouquin, je ne le lis plus. » Et pourtant, Dieu dit qu'on peut être heureux. Alors, il y a trois choses, trois verbes sont utilisés. Apocalypse 1, verset 3, « Heureux celui qui lit. » Bon, mais ça ne suffit pas. « Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. » Donc, on peut lire sans entendre, bien sûr, sans garder. Et on peut entendre sans garder. Il faut qu'il y ait ce processus de la... Oh, je le lis, bon, mais je le lis parce qu'il faut que ça passe par la lecture, donc ça passe par l'intelligence, mais après il y a quand même un attachement, je l'entends, j'ai pas fait que l'écouter, je l'entends vraiment, j'ai compris, mais je le garde. Et beaucoup de chrétiens sont angoissants parce qu'ils sont angoissés et parce qu'ils n'ont pas pris le temps de garder suffisamment ce que Dieu avait mis sur cette table, sémé, succulent et gras. Donc, si nous ne nous arrêtons pas, vous pouvez le justifier. Moi, voyez, je servais Dieu. À la limite, c'est tout à mon honneur. Personne n'aurait pu me dire, t'es un feignant, t'es un paresseux, t'es payé à rien faire. Ah non, personne ne pouvait me faire ce reproche. Personne à l'église aurait eu le toupet de venir me dire, monsieur Go, il faut faire plus de 39 heures quand même. Vous êtes... Non, c'était, comme a dit un pasteur, moi les 35 heures, ça me va tellement bien que je les fais deux fois par semaine. Mais je ne pense pas que c'est intelligent, voyez. C'est pas ça que Dieu demande. Alors c'est vrai qu'humainement, oh, on a un pasteur qui bosse, on a un pasteur motivé. Mais quoi ça sert? À quoi ça sert s'il ne communique pas à l'Église la paix? Car je crois que quand on est en paix, on procure la paix. Oui ou non? Voilà. Et si un chrétien communique des angoisses, il ne va pas chercher longtemps. C'est qu'il est angoissé. Je pense à un problème que j'ai dû régler, où une personne me disait, mais oui, je suis découragé. Et bien j'ai dit, mais vous ne faites que décourager les gens. Parce que il faut quand même éveiller, il faut éveiller. Le Seigneur a dit ceci, écoutez bien, pour qu'on comprenne ces choses. Le Seigneur a dit ceci aux pharisiens, vous sondez les Écritures. C'est pas mal, non? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Des gens qui sondaient les Écritures, c'est tout ce que les pasteurs veulent, que les chrétiens sondent les Écritures, méditent les Écritures. C'est tout ce qu'un pasteur veut. Voilà, si je peux vous dire tous les dimanches, mais sondez les Écritures, méditez les Écritures. Et voyez-vous, ils sondaient les Écritures, et pourtant, ils ne venaient pas à Jésus. C'est un truc de fou, oui ou non? Est-ce que vous vous rendez compte? Sondez les Écritures, et vous ne voulez pas venir à moi. Et c'est ce qui explique le légalisme dans les églises. J'en parlerai mardi soir. Mardi soir parce que, vous savez, quand ce pasteur, dans la famine, c'est à cause de la famine, j'anticipe sur la réunion de mardi. Vous savez ce pasteur, il y avait la famine. Le problème, c'est ça, c'est qu'à cause de la famine spirituelle, les gens gobent n'importe quoi. Ils vont dans les librairies chrétiennes, à partir du moment où c'est une librairie chrétienne, à partir du moment où on parle de Dieu, à partir du moment où on parle du Saint-Esprit, à partir du moment où on dit Alléluia de temps en temps, ça vient de Dieu. Mais moi, je peux vous dire que c'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'il y a des Alléluia qu'il y a du Saint-Esprit, et attention, bon, je ne l'explique pas, je l'expliquerai mardi, que ça vient de Dieu. Et vous rappelez, le prophète qui a dit pasteur, mais la mort est dans le pot. homme de Dieu. Et le pasteur lui-même est en train de s'empoisonner et d'empoisonner les autres. Voilà ce qui se passe lorsqu'on ne prend pas le temps de vérifier si ce qui est dit est vraiment biblique. Mais il y a des choses qui ressemblent tellement à la parole qu'on se fait avoir. Alors, c'est vrai que j'ai fait une parenthèse pour mardi, mais franchement, ça me brise le cœur de voir des chrétiens qui ont 15 ans, 20 ans de conversion et qui se font emporter à tout vent de doctrine. Ailleurs, regardez, on va le lire. Marc 12, 24. Je n'ai pas prêché depuis 3 mois, je vais me rattraper, je vous le dis. Attendez-vous à ce qu'on sorte qu'à 2 ou 3 heures d'après-midi. Marc chapitre 12, 24. Regardez, Marc chapitre 12, verset 24. Il parle également à des gens qui aiment Dieu et qui aiment Dieu, entre guillemets, de tout leur cœur. Mais regardez cette parole. Marc 12, 24. C'est avec des textes comme ça que j'ai compris pourquoi tant de chrétiens étaient malheureux et faisaient du mal. Marc 12, 24. Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu ?» Et vous lirez la suite. N'êtes-vous pas dans l'erreur? Vous vous rendez compte? Ailleurs, il dit, mais vous êtes grandement, verset 27 à la fin, vous êtes grandement dans l'erreur. Et à partir du moment où on confond, il faut lire le contexte, c'est l'idéal, faites-le. Voyez, des chrétiens qui ne comprenaient ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Est-ce qu'on comprend les Écritures? Est-ce qu'on comprend que Dieu est tout-puissant? Est-ce que vous le croyez que Dieu est tout-puissant? Hier, il y a un pasteur qui est passé à la maison et qui me dit, mais pourquoi vous avez eu un AVC? Mais ça m'est égal. Je sais que Dieu ne se trompe jamais. Vous croyez que Dieu se moque de nous? Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit pendant 30 ans, quand j'étais en bonne santé. J'ai été malade, mais je pense pareil. Dieu sait ce qu'il fait. Il ne se trompe jamais. Les deux disciples d'Emmaüs représentent la moitié des chrétiens d'aujourd'hui. Je dis la moitié parce qu'il y a une prophétie qui dit que quand Jésus viendra, il y aura la moitié de fous et la moitié de sages. C'est une prophétie, ce n'est pas qu'un enseignement, c'est une prophétie. Donc, je peux me permettre de dire que les chrétiens d'Emmaüs représentent la moitié des chrétiens d'aujourd'hui. Jésus marche à côté d'eux, c'est extraordinaire. Le jour de la résurrection, Jésus marche à côté d'eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Qu'est-ce qu'ils sont? Alors, ils sont tristes, troublés, vous connaissez l'affaire, malheureux, découragés, incrédules, foi, désespérés, j'arrête là, alors qu'ils auraient dû vivre dans la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris les Écritures. Jésus ne leur a-t-il pas dit qu'ils devaient mourir, être crucifiés, être livrés, être... Est-ce que Jésus l'a dit? Il n'a pas arrêté de leur dire. Mais, et ils se plaignent. Et ça, c'est un voyant rouge, ça. Quand vous vous plaignez. Bon, ça peut arriver de se plaindre 10 secondes, puis après, bon, pardon, je me suis plaint, excuse-moi. Mais c'est un voyant. Un voyant mauvais. Qui nous fait prendre conscience que ça ne va pas. Quand on se plaint, quand on est froid. Oui, mais vous comprenez. Écoutez-moi. Jésus, il est vivant. Et il est à côté de nous. Vous ne le voyez pas. Vous ne le sentez pas. Et c'est très bien qu'on n'ait pas à vivre par les sentiments. Là aussi, j'ai dit qu'un des problèmes, c'était de ne pas savoir s'arrêter. Mais un problème beaucoup plus grave encore, qu'on n'a pas le temps d'aborder aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens vivent sentimentalement. Ça fait qu'ils sont incapables de comprendre les choses spirituelles. Ils voient, à partir du moment où quelqu'un est gentil, vous voyez, quelqu'un est gentil, il est spirituel. Ce n'est pas parce que quelqu'un est gentil qu'il est spirituel. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas, l'œuvre de Dieu ne se fait pas avec la gentillesse. L'œuvre de Dieu, elle se fait avec du spirituel. Bon, ça, je veux pas sortir. Les apôtres, les disciples, avaient besoin d'une expérience. Et il se peut que vous, mais moi avec, nous ayons, d'ailleurs c'est probable, que nous devions tous faire une expérience supplémentaire. Et vont faire cette expérience. Jésus va leur ouvrir les yeux. Vous connaissez la fin de cette affaire. Il est dit, Luc 24, 45, « Alors, il leur ouvrit l'esprit » pour qu'ils comprennent les Écritures. Mais ça prend du temps. Vous avez vu toute cette situation pénible de froideur, de désespoir, de découragement, s'est conclue intelligemment parce que Jésus les a pris avec eux pour manger avec eux. Il y a l'image du pain, du vin, de la Sainte Cène. Et il est resté avec eux. Et à la fin, il dit, il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils se sont arrêtés. Alors, si vous faites le choix de ne pas vouloir vous arrêter, ou alors Dieu, dans sa grâce, peut le faire, comme il l'a fait avec moi, pour que je me recentre sur mon ministère, parce que Dieu savait très bien, peut-être, qu'il n'y avait que ce moyen. Entre autres, vous savez, il y a 17 ans, j'ai traversé 3 ans d'épreuve, il y a 17 ans. Et j'avais dit au Seigneur un jour, ça faisait 12 ans que j'étais pasteur, et je m'étais mis à genoux dans mon bureau, mais vous voyez, j'avais dit, Seigneur, tu vois, brise-moi, pensant que c'était déjà fait. Vous voyez, brise-moi. Mais je l'ai dit sérieusement, parce que je sais que Dieu entend tout. Et pendant 3 ans, j'ai été éprouvé. Et au mois d'août, dans mon lit, j'étais, et j'ai dit, tu vois, Seigneur, je ne pensais pas qu'un jour je te referais cette prière. Mais tu vois, si tu veux me perfectionner, ce que je sentais, je t'autorise à me briser. Je ne savais pas, mais je vous assure, il y a eu 3 ou 4 épreuves, une situation, et il y a eu l'AVC, et je crois que quand Dieu nous brise, ce n'est pas pour nous blesser, c'est pour nous bénir. Mais si on ne comprend pas ça, on ne va pas demander à Dieu qu'il nous brise. Mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine que je sois meilleur pour apporter vraiment le repos à l'Église, plutôt qu'une machine à faire des prédications? Qu'est-ce que vous préférez, une machine à faire des prédications ou un homme de Dieu qui vous apporte la pensée de Dieu dans l'Église? Et bien voilà, et c'est pas pareil, c'est pas pour moi, c'est pour chacun d'entre nous, que demain nous ayons la joie, et de plus en plus, dans ces temps de malade, d'amener la bénédiction sur les gens. Ils ont besoin d'une expérience. Regardez avec moi dans un autre texte, c'est dans Marc 9, je ne l'ai pas marqué, mais je sais, c'est dans Marc au chapitre 9, regardez. Là, un autre texte qui vous prouve qu'on peut être dans la volonté de Dieu, et être troublé. Et quand on est troublé, eh bien on trouble les autres. C'est pas plus simple que ça, ou compliqué. Marc, alors attendez, oui, c'est Marc 9, je ne l'ai pas marqué. Aïe, aïe, aïe. Oui, Marc 10, 32, pardon. Maintenant j'ai une excuse, c'est mon AVC. Marc 10, 32. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Donc, je peux vous dire qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Jésus allait devant eux. C'était pas la volonté de Dieu, ça? Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Vous voyez? Ils étaient au centre de la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Les disciples suivent Jésus dans le trouble et dans la crainte. Ça fait mal au cœur, vous ne trouvez pas? Bon, regardez cette délicatesse, parce qu'on y viendra sur la tendresse du Seigneur. Regardez. Regardez bien. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui. Elle n'est pas belle cette parole? C'est ça qu'on a besoin. Il n'aura pas fait un sermon, mais je vous l'ai dit 10 fois déjà, mes bandes d'incrédules. Il les prend. On a besoin de. Heureusement que l'amour est patient. On a besoin de sa tendresse. On n'a pas besoin de coups de bâton. Il les prit de nouveau avec lui, auprès de lui, et commença à leur dire, il le savait déjà, parce que ce n'est pas la première fois, ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs, aux scribes, ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir. Et après 3 jours, il ressuscitera. Vous voyez, il les a pris avec lui, et c'est ce que je crois que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Il ne veut pas nous faire des sermons et des remontrances et nous gronder. Ce que le Seigneur veut, c'est nous prendre avec lui et nous parler de la croix, nous reparler de la croix, nous reparler de Gethsémané, nous reparler de son amour, et nous dire voilà ce qui va arriver. Bien sûr, ça c'est accompli, mais nous parler à nous de ce qui nous attend. Est-ce que vous savez ce qui vous attend? Est-ce que vous savez que le meilleur est devant vous, mes frères et sœurs? On y reviendra, croyez-moi. Voyez donc, voyez cette sollicitude du Seigneur. Et je crois que si d'un côté, il faut de la sévérité, dans l'Église, il faut de la sévérité, il faut de l'ordre, il faut de la bienséance, etc. D'un autre, je crois que nous, ces enfants, nous avons besoin de tendresse et de sollicitude. On en a besoin. Que Dieu nous aide à être tendres et patients les uns vis-à-vis des autres. Donc, ils se sont arrêtés. Et là, je ne sais pas où vous en étiez de la crainte et du trouble, mais je crois que ça a dû en partie partir. C'est ce que Dieu veut. Donc, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste. Écoutez bien. Il n'y a pas besoin d'être un pasteur agréé, il n'y a pas besoin d'être une élite, un philosophe particulier, un théologien. Il faut un cœur vrai, un cœur tout simple. Dans la Bible, vous voyez que Dieu a béni des gens qui avaient un cœur simple. Dieu l'a dit, eh bien je le crois. Alors, se pose une question, je vous répète, c'est une introduction. Est-ce que Jésus, il faut que vous répondiez, est-ce que Jésus a bien voulu dire ce qu'il disait? Parce qu'aujourd'hui, oui, mais Dieu a-t-il... Vous connaissez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Dieu a-t-il réellement dit? Vous savez, c'est... Alors, ce n'est pas formulé, parce que le diable, il est fin, ce n'est pas formulé avec cette question, mais c'est la même chose. Quand je vois les remarques, c'est pareil. Alors, est-ce que Jésus a bien voulu dire ce qu'il disait? Lorsqu'il dit, lorsqu'il proclame « Mon joug est doux et mon fardeau léger », qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? C'est quand même lui qui parle. « Mon joug est doux et mon fardeau léger ». Est-ce que c'était une image? Parce que moi, j'ai entendu un tas d'âneries dessus. Est-ce que c'était une façon de parler? Parce que Jésus parlait en parabole, en métaphore. Est-ce que c'était juste une façon de parler? Est-ce que c'était une parole de plus? Comme nous, on a l'habitude de faire, des paroles qui ne servent à rien. Parce que nous, vous avouerez que même quand on est bien intentionné, on peut dire des choses qui ne servent à rien. On l'a regretté. Vous n'avez pas regretté des trucs que vous avez dit? Bon. Mais est-ce que vous pensez un instant que Dieu puisse dire quelque chose et qu'après, 5 minutes après, il puisse, ou 100 ans après, il puisse dire « Oh, ça, j'aurais jamais dû le dire. Oh, je me suis trompé. » Est-ce que vous imaginez Dieu comme ça? Tout ce que Dieu a dit s'accomplira. Tout. Lui, nous, on oublie, mais lui, il n'oublie pas. Ses promesses, il les accomplira. Donc, quand Jésus dit « Je vous donnerai du repos », il veut donner du repos. C'est quelque chose d'important. Et sommes-nous vraiment au clair sur tout ce que Dieu veut nous donner? Ce matin, je le répète, vous avez entendu, j'ai mis devant vous une table avec des mets succulents et gras. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que nous nous rassasions de ces plats ou est-ce que nous passons à côté comme un repas auquel on n'a pas voulu participer? Je vous donnerai du repos. Et je pense qu'après... Si on s'arrête, la première des choses qui devrait s'en suivre, c'est d'être au clair sur tout ce que Dieu veut nous donner. Ou alors, on passe vite, comme ce repas qu'on zappe, parce qu'on pense que c'est secondaire. Ou alors, on pense que c'est pour les inconvertis. Tiens, ça c'est parole, Matthieu 11, 28, venez à moi. Bon, tout ça c'est pour les inconvertis, c'est pour les pécheurs, ils ne sont jamais venus à Jésus. Donc, ça les concerne à eux. Moi, je peux vous dire... qu'on n'a pas besoin de révélations extraordinaires. Il y a des gens, ils attendent que ça, des révélations extraordinaires. Moi, ça me fatigue. Quand je vois le mal qu'on peut faire parfois, on n'a pas besoin de révélations intérieures importantes. On a besoin d'être comme des enfants devant les promesses du Seigneur Jésus-Christ. Ces paroles ne sont pas secondaires, ces paroles ne sont pas pour les inconvertis, ces paroles, elles sont pour nous, ces enfants, je vous donnerai du repos. Et je comprends, vous voyez, quand on travaille ce sujet, parce que vraiment c'est un sujet qui me préoccupe. Je comprends pourquoi Jésus a pleuré devant Jérusalem. Vous savez qu'avant d'être crucifié, Jésus a pleuré devant Jérusalem. Et il a dit en pleurant, c'est quelque chose qu'il a dit en pleurant, c'est pour qu'on s'arrête un peu plus peut-être, pour qu'on comprenne un peu mieux. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule? Vous rendez compte de cette tendresse, rassemble ses poussins sous ses ailes. Vous avez certainement déjà vu ça, des petits poussins sous une poule. Quoi de plus attendrissant que ça? Il n'y a rien de plus beau que ça. Et Jésus utilise il le dit en pleurant. C'est quelque chose dont parce qu'il veut nous faire comprendre qu'on n'a pas utilisé notre volonté. Puisqu'il dit, combien de fois ai-je voulu, lui il a voulu, la volonté lui il l'a mise, combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. C'est-à-dire que lui il l'a voulu, et nous on ne l'a pas voulu. Et là il faudra travailler la part de l'homme et la part de Dieu, car... C'est quand même si c'est tout simple, il faut quand même avoir cette objectivité de comprendre dans la Bible ce qui est la part de l'homme, ce qui est la part de Dieu. Et vous verrez, il y a plein de choses qui vont s'éclairer et qui vont nous permettre d'avancer dans ce repos si nous comprenons ces choses, la part de Dieu et la part de l'homme. Donc, on n'a pas voulu, ce qui prouve que nous luttons avec notre volonté. Vous savez, on ne peut pas obliger Dieu à faire ce qu'il ne veut pas faire. Vous pouvez prier des heures, ça ne change rien. Si Dieu ne veut pas faire quelque chose, il ne le fera pas. Mais je peux vous dire qu'on peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors il y a des gens, Seigneur fait ceci, Seigneur fait cela, bon, il se fatigue. Mais je peux vous dire qu'il y a plein de choses que Dieu veut faire, auxquelles Dieu ne peut pas aboutir, parce qu'on l'empêche. On n'a pas utilisé suffisamment notre volonté. Alors on va voir qu'il y a le repos de la confiance, d'un côté il y a une confiance totale, et de l'autre côté ça passe également par notre volonté. Oui, la parole, on l'a lu, qui leur fut annoncée, ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. La vie chrétienne est une vie de grâce. La vie chrétienne doit être vécue dans la foi. Paul a dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, parce qu'ils se disputaient, les uns parce qu'il fallait jeûner, et les autres parce qu'il ne fallait pas jeûner, les autres parce qu'il fallait rendre grâce, les autres parce que le lundi n'était pas le même jour que le dimanche. Vous connaissez Romains 14 et il termine en disant, mais le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et l'amour par le Saint-Esprit. Et c'est une question qu'on doit se poser dans l'Assemblée. Dans l'Église du Seigneur, y a-t-il la justice? Pas la propre justice. On y reviendra. La vraie justice de Christ, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Parce que laissez-moi vous dire, vous avez vu comment sont les temps? Les temps sont difficiles, mais et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Ça ne va pas aller en s'arrangeant. Les temps seront de plus en plus difficiles. Où avant, il y avait des faits divers, c'était 2, 3, 4 fois par an. Vous avez vu que maintenant, c'est 2, 3 fois par semaine. Ça va être 10 fois par jour. Vous allez voir. On ne veut pas de la grâce de Dieu. Eh bien, les pécheurs vont le payer cher. Mais nous, mes frères et sœurs, le Seigneur s'est engagé à nous protéger. Il nous gardera. Hier et ce matin, je méditais le psaume 121. Quand il est dit, mais je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Et ce matin, quand notre jeune frère Vincent Lallemand parlait des montagnes que Dieu soulève, des vallées qui gambadent, je me disais, mais il a créé les montagnes. Il faut les voir, ils y sont les problèmes. Les montagnes représentent les problèmes, elles y sont. Le psalmiste nous montre bien qu'il y en a. Il ne faut pas être bête au point de zapper les problèmes. Je lève les yeux vers les montagnes. Mais les montagnes, Dieu, il le dit, c'est l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Mais il veut que nous comprenions que s'il y a des problèmes, Dieu peut faire changer les cœurs. Dieu changer les problèmes. Et un chrétien, il ne peut pas faire autrement. S'il est chrétien, je ne parle pas pentecôtiste ou catholique, je parle un vrai chrétien, croyez-moi, ne peut pas faire autrement que de procurer la paix. Je crois que son joug est doux et son fardeau léger. Pourquoi? Alors, quelques questions se posent, puisque c'est une introduction. Pourquoi tant de chrétiens ont du mal à demeurer fermes dans l'assurance que Dieu les aime? Pourquoi tant de chrétiens se battent avec le fait que Dieu les aime? Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime? Dieu vous aime? Vous avez répondu amen? Parce que vous avez fait des progrès? Ou vous croyez tout simplement que Dieu vous aime, progrès ou pas progrès? Moi, si vous saviez, bon, on le fait, on est pasteur. Non, mais je ne sais pas si Dieu m'aime. Vous savez, je n'ai pas fait des progrès. Ça fait 6 mois, je me traîne, je ne vais pas bien. Non, je ne pense pas que Dieu m'aime. Mais voyez, je ne pense pas, j'ai l'impression que... Comment voulez-vous que ces chrétiens aient une foi profonde? Vous n'avez pas fait des progrès, bien sûr que ce n'est pas bien. Mais je peux vous dire que Dieu vous aime. Progrès ou pas progrès. Et pourquoi toutes ces craintes? Pourquoi tous ces murmures? Vous savez, j'ai le temps de réfléchir parce que Dieu m'oblige à ne m'occuper que de mon ministère pour le moment. Mais... je réalise certaines choses que Dieu m'avait fait comprendre. Mais là, je les réalise pleinement. Est-ce que vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, 2 décembre, on peut goûter à la bonté du Seigneur? Oui, moi je le crois. Comment penser qu'il puisse nous abandonner dans les moments difficiles? Mais comment ceux qui connaissent ton nom se confient en toi? Vous savez, je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu, parce que je tiens à vous le partager. Le premier soir de mon AVC, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas écrire, je n'y voyais pas. J'y voyais une tranche, je voyais des bandes. Et vraiment, ça allait mal. Ça allait mal, j'avais entendu des trucs de la part des docteurs qui ne savaient pas que j'entendais. J'avais entendu ce que le docteur avait dit à ma femme. Vraiment, que je pouvais mourir dans la nuit parce qu'on fait un bon truc comme ça. Bon. Mais moi, j'étais là, dans le repos.
Et puis ma femme s'est approchée, parce que je voyais mes enfants, je voyais qu'ils étaient assez loin, je voyais leur souffrance, j'avais presque envie qu'ils partent, parce que je voyais qu'ils étaient malheureux. Et d'un côté, je voyais Isabelle à côté, qui était... et elle s'est approchée, comme seule une femme peut s'approcher, sa femme peut s'approcher. Elle s'est approchée à 10 cm. Et j'ai vu, parce que je ne voyais pas, et j'ai vu ses yeux. J'ai vu ses yeux et elle m'a parlé. Elle m'a dit des choses qui m'ont fait beaucoup de bien. Ça m'a rappelé quand on passe devant le maire, vous savez, quand la mar... Non, mais je riais pas beaucoup quand même. J'étais dans une grande paix, mais je riais pas tant que ça. Et je pensais, parce que c'est beau quand même, je pensais qu'il y a 31 ans en arrière, on s'était unis devant Dieu. Parce que là, quand même, on se pose des questions quand même. On se marie pour le meilleur et pour le pire, vous savez, on est là, on va prendre l'apéritif, mais quand on le vit. Et elle est partie. Les enfants sont partis, j'étais content qu'ils partent parce que je voyais, à même temps, j'étais sur Verbi Kirel, vous savez, c'est bon. Et je remerciais Dieu, je dis merci pour la femme que tu m'as donnée. Merci pour l'Église parce que j'ai vu votre affection, vous savez, je ne pense pas que vous m'aimez parce que je suis votre pasteur, je pense que vous m'aimez parce que je suis votre frère. Et ça fait beaucoup de différence. Et Dieu m'a parlé. Il me dit, tu vois, tu as une femme qui t'aime, tu as une Église qui t'aime. Mais même si tu n'avais pas d'église qui t'aimait, si tu étais tout seul, je suis ton berger et tu manqueras de rien. Et voyez, c'est extraordinaire d'avoir une épouse qui prend soin de soi, d'avoir des enfants qui vous comprennent, d'avoir une église qui vous aime. Mais là, vraiment, je suis ton berger. Même si tu étais tout seul, tu ne manqueras de rien. Et ça, c'est la vérité. Tant mieux pour l'affectif, tant mieux pour la communion. C'est du bonus, et du bonus, et du bonus. Mais Dieu, il prend soin de ses enfants. Vous êtes seul? Le Seigneur est aussi votre berger. Vous avez un conjoint qui vous a abandonné? Ça peut arriver. Vous avez un foyer où ça s'est mal passé? Dieu est votre berger. Et ça serait de la fausse doctrine de dire oui, j'ai une épouse et des enfants formidables, une église formidable. Ce n'est pas ça la doctrine. La doctrine, c'est que dans l'épreuve et dans la bénédiction, le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Ça, c'est la doctrine. Et comment un chrétien peut-il rentrer dans le repos? Et je vous assure, après ils ont envoyé une infirmière, je me rappelle, je ne pouvais pas parler, elle essayait de me réconforter, mais moi je pensais, si tu savais comment je vais mieux que toi. Mais vraiment, je l'ai pensé. Parce que je voyais qu'il l'a envoyé. La pauvre me disait, monsieur Go, vous savez, ça ira bien. Mais je ne pouvais pas parler, je ne pouvais plus parler. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais ma pauvre jeune fille. Et après, le lendemain, je lui ai offert un évangile. Je lui ai expliqué que Dieu me prenne ou que Dieu me guérisse. Tout allait bien. Est-ce que vous croyez que c'est vrai? Est-ce que c'est biblique? Eh bien voilà, l'épreuve, c'est ça. On a besoin d'épreuves. On a besoin d'épreuves. Alors, oui, ça fait beaucoup. Juste, je vais terminer avec quand même une pensée, parce que j'y tiens. Un chrétien qui connaît Dieu ne peut pas vivre dans la crainte ou dans l'épuisement. Je ne parle pas de fatigue, dans un épuisement continuel. On peut être éprouvé. Est-ce qu'il y a des hommes dans la Bible qui ont été éprouvés? Est-ce que Josaphat n'a pas été effrayé devant ce qui se passait? Il a été effrayé, c'est écrit, tant mieux que ce soit écrit. Mais cela n'a pas empêché de manifester sa foi et de faire du bien. Il y a des gens, quand ils sont effrayés, je peux vous dire que, courage, fuyons. Ils font peur à tout le monde. Regardez David. On va lire deux textes. Je termine avec ça. J'avais beaucoup de choses, mais je vois que l'heure passe. Regardez dans le psaume 25. On y reviendra mardi. Parce que, pour moi, c'est un sujet, vraiment, je crois que Dieu a permis à 80% cet AVC pour que j'apporte ce sujet. Et qu'on fasse du bien. Les chrétiens, il faut qu'ils se fassent du bien. Par exemple, dans le psaume 25, c'est un psaume de David. Là aussi, il traverse un moment difficile. La vie est dure. Vous le savez que la vie est dure. Je vous apprends. La vie est vraiment difficile. Les temps sont difficiles. Et les temps ne s'arrangeront pas. Ne rêvons pas. Mais la grâce de Dieu est là. Et au-dessus de tout ça, justement. Dans le psaume 25, on va lire que le verset qui nous intéresse. Le verset 17. Les angoisses de mon cœur. Qu'est-ce qui se passe? Diminue. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse, vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés, parce que quand ça va mal, des fois on fait des erreurs. Mais regardez avec quoi ça finit. Ça finit avec de l'espérance. Vous voyez, verset 21, que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. On voit un homme qui est plein d'angoisse, ses angoisses augmentent, il témoigne de sa misère, mais il fait du bien. La preuve, c'est un psaume inspiré. Il fait du bien aux gens. Et vous pouvez parler de vos angoisses, vous pouvez parler de vos épreuves, mais je crois qu'il y a une... Quand on vit dans l'Esprit de Dieu, c'est là qu'on reconnaît quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Il va faire du bien. Regardez Paul, dans 1 Thessaloniciens, on va terminer avec ce texte. On va terminer avec deux textes, parce que le dernier texte qu'on va voir est important. Mais regardez, dans 2 Thessaloniciens, bon, il a souffert cet homme. Il a souffert, il parle de ce qu'il a vécu à Philippe. Vous savez qu'à Philippe, il a été tapé, enchaîné dans une prison, etc. D'ailleurs, il en parle au chapitre 2, regardez, et au verset 2. Regardez la façon dont on peut parler de ce qui nous a éprouvés, de ce qui nous a fait mal. Parce qu'il y a des choses qui nous font mal, parce que la vie est faite de choses mauvaises. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut le reproduire. Regardez, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 2. Après avoir souffert, voyez, la vie est faite de souffrance, ne nous leurrons pas. Même s'il y a un grand repos, il y a de la souffrance. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 2. Nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer dans l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. On voit quelqu'un qui a souffert et regardez au verset 7 du chapitre 3. Regardez, mais franchement, imaginez-vous. Il est dans un moment difficile. Alors, en conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, donc ça allait mal, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Et regardez le bien, vous lirez la suite, le bien que Paul va faire aux chrétiens de Thessalonique, la preuve c'est inspiré, malgré ses épreuves, malgré ses angoisses. Et on n'a pas le droit de décourager, parce que si vous êtes découragé, si vous découragez les uns, c'est que vous êtes découragé. Les choses ont été écrites, on va terminer avec ce texte, je ne sais pas depuis combien de temps je prêche, j'ai plus l'habitude. Jean chapitre 20, regardez verset 31. Je veux qu'on termine avec ce texte pour que vous compreniez pourquoi la Bible a été écrite. Regardez bien, il faut terminer avec ça, c'est la conclusion. On pourrait prendre demi-heure pour cette conclusion, on y reviendra. Regardez, Jean chapitre 20, verset 31. Mais ces choses, lisez-le et notez-le et méditez-le, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Quand on croit, on doit recevoir quelque chose. On doit recevoir quelque chose qui va nous faire du bien. Et je voudrais, mais vraiment, de tout mon cœur, si Dieu m'a gardé en vie, mais je suis convaincu, mais convaincu que c'est pour ça, à 80%. Il y a deux ou trois trucs à côté, mais il y a une conviction dans mon cœur. Il faut que dans des temps misérables, difficiles, dégoûtants que nous vivons, nous les chrétiens, nous donnions un bon témoignage. Que les brebis soient des brebis en pleine santé. Que si le troupeau il est sec, desséché, malade, apeuré dans le désert, rejoignez-nous. Personne ne va vouloir nous rejoindre. C'est évident. Personne ne va rejoindre un troupeau qui est sec, maigre dans le désert. Et un chrétien doit s'appliquer à recevoir la vie. Et je voudrais de tout mon cœur vous amener à une connaissance de Dieu pratique, pas une connaissance de Dieu mystique, faite de révélations. Moi, ça, je ne le supporte plus. Ça m'énerve. Ça n'a rien à voir. La connaissance de Dieu, c'est le caractère de Dieu que nous découvrons lorsque nous croyons, on vient de le lire, ce qui est écrit à son sujet. Vous êtes d'accord avec moi? La vie, elle vient lorsque l'on croit ce qui est écrit au sujet de Dieu. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et qu'en croyant, vous ayez la vie. Ce qui donne la vie, ce n'est pas une connaissance mystique. D'ailleurs, les gens mystiques vous énervent aussi, je pense. Ce qui donne la vie, c'est simplement de croire ce qui est écrit. Dieu l'a dit, je le crois. Le Seigneur a dit qu'il serait mon berger, que je ne manquerai de rien, ça ne se discute pas. C'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est pas David qui l'a dit, si c'est dans la Bible, c'est Dieu qui l'a dit. Et mes frères et sœurs, entrons dans ce repos, soyons sérieux, n'attendez pas de révélation, lisez la Bible, et ce qui est écrit, croyez-le. Si Dieu dit qu'il vous aime éternellement, eh bien c'est qu'il vous aime éternellement. Et c'est pour ça que les gens en enfer seront furieux, parce qu'ils seront passés à côté de cette immense, immense, immense bénédiction. Alors, fermons les yeux, prions pour ces études. Je pense que ça va durer plus de 6 mois, minimum 6 mois. Le mardi et le dimanche, je vous le dis, non pas pour que vous compreniez que ce sujet est important. Un chrétien, il doit communiquer la paix. Alléluia. Prions le Seigneur. On va terminer par un chant. Hein, tu as un chant, s'il te plaît. Notre Père, tu es venu pour nous donner la vie, pour nous procurer la vie. Seigneur Jésus, de tout notre cœur, nous croyons que tu nous aimes. Et que malgré les temps difficiles, malgré les montagnes, oui, comme nous l'avons entendu, tu soulèves les montagnes, tu fais promener les vallées. Seigneur, tu as créé les cieux et la terre. Alors, que veux-tu faire dans nos vies ? Sinon que nous soyons des sources de bénédiction. Et nous te prions pour cette assemblée. Seigneur, pour que nous donnions le témoignage de ce que tu es un Dieu de paix, un Dieu, oui, de justice, un Dieu de grâce et de consolation, un Dieu de bonté, et que toutes ces vertus, tu ne veux qu'une chose, Seigneur, les communiquer à tes enfants. Seigneur, pardonne-nous de ne pas avoir su suffisamment nous arrêter. Et enseigne-nous, oui, que le secours nous viendra toujours de l'Éternel. Seigneur, merci pour cette Église. Seigneur, merci de m'avoir permis de pouvoir apporter ta parole. Conduis cette assemblée. Tu vois les prochaines réunions, inspire-nous, dirige-nous, et que chacun d'entre nous, nous devenions ces brebis pleines de paix, ces brebis pleines de grâce, ces brebis pleines de bonté. Tu as dit que ton amour est patient, que ton amour est plein de serviabilité. Seigneur, fais de nous ces brebis qui amèneront la bénédiction sur ton œuvre, s'il te plaît. Et aide-moi à être ce serviteur. Quel que soit, Seigneur, le temps qu'il me reste, qu'il nous reste à vivre, mais qu'importe, Seigneur, mais que notre vie soit utile et que nous fassions du bien à tous les chrétiens et à tous les pécheurs que nous pouvons côtoyer. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur Jésus. Amen.